Merci beaucoup pour votre accueil. Vraiment, ça fait plaisir pour Rosemary et moi d'être à nouveau parmi vous. Quelqu'un nous a dit jeudi, mais ça fait quand même un peu loin, un aller-retour à Nantes. Mais très sincèrement, c'est un plaisir d'être avec vous. Et donc, même s'il y a quelques kilomètres à faire, c'est franchement pas gênant. C'est pas toujours qu'on part l'esprit léger, mais quand on part pour venir chez vous, c'est avec l'esprit léger. On est content de, voilà, de vivre ce moment. J'avais à cœur de lire avec vous le début du livre de Néhémie dans l'Ancien Testament. Néhémie, si vous voulez suivre, ou sinon vous pouvez simplement écouter pendant que je lis. Pourquoi Néhémie? Parce que je pense, peut-être plus que tout autre livre, Néhémie parle de notre service pour Dieu. Et je trouve que c'est important de nous rappeler régulièrement les principes du service chrétien. Et puis le jour de votre assemblée générale, ça me semble être un bon thème à aborder. Donc les premiers versets du livre de Néhémie. L'histoire de Néhémie, fils de Hakalia. La 20e année du règne d'Artaxerxès. Oh là là. D'Artaxerxès, c'est cela. Au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Sus. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem, et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restai abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. » Comme j'ai dit, un livre qui parle de notre service chrétien. En fait, Jésus, c'est notre Seigneur, n'est-ce pas? C'est le Maître. Et alors que notre prière puisse être pas que ce matin, mais de manière permanente. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dans ma vie personnelle, dans ma vie de famille, dans ma vie professionnelle, dans notre vie d'église. C'est toi le Maître, que veux-tu que je fasse? Et comment veux-tu que je le fasse? D'abord, rappelons-nous les circonstances dans lesquelles ce livre a été écrit. Il faut retourner à l'an 586 avant Jésus-Christ. C'est le début de l'exil des Juifs en Babylone. Et quand les soldats babyloniens sont sortis de Jérusalem cette année-là, ils ont laissé derrière eux une ville détruite. Le temple magnifique construit par Salomon 400 ans auparavant, était écrasé. Les portes de la ville, tout autre bâtiment important, étaient en flammes. La muraille forte était cassée. Il ne restait plus que les plus pauvres et les plus faibles des habitants. Tous les autres ont été amenés à Babylone en captivité. Ce qui faisait le plus mal, c'est que les Juifs savaient bien que ce malheur était le résultat de leur désobéissance, de leur péché. Jérémie les en avait avertis, souvent, avec sensibilité, avec courage. Et pourtant, tout n'était pas perdu. La prophétie d'Ésaïe se réaliserait. Le peuple serait pardonné leur péché et ils allaient revenir de l'exil. C'était 56 ans plus tard quand l'empire babylonien a été renversé par les Perses. Et le roi des Perses, lui, a encouragé les Juifs à rentrer à Jérusalem, reconstruire. Donc, tout de suite, quelques 50 000 Juifs sont partis. Pourtant, la tâche qui les attendait était énorme. Et entre-temps, il y avait des étrangers qui se sont installés à Jérusalem et eux ont monté une opposition importante. Alors, ces Juifs-là ont baissé les bras avant de terminer la reconstruction du temple. Pourtant, Dieu appelait deux prophètes, Haggai et Zacharie. Et parlant, Dieu a parlé à son peuple par ces deux hommes, et le peuple a pris courage, et les Juifs à Jérusalem ont repris le travail, et le temple a été terminé 20 ans plus tard. Encore 60 années s'étaient écoulées quand un deuxième groupe de Juifs est rentré à Jérusalem, cette fois-ci sous la conduite d'Esdras. Et pourtant, les étrangers qui s'étaient installés à nouveau ont monté une opposition considérable contre ce deuxième groupe, groupe qui a été retourné à Jérusalem pour reconstruire la muraille. Le résultat, c'était que la muraille n'était toujours pas rebâtie 14 ans plus tard. Et c'était à ce point-là que Dieu a appelé un autre serviteur à agir, Néhémie, dont on vient de lire le début de son livre. Néhémie était appelé pour que la muraille de Jérusalem soit rebâtie. Donc voilà le contexte historique de ce livre. Mais mon désir n'est pas principalement de vous apprendre l'histoire biblique, bien qu'elle soit très intéressante et enrichissante. C'est plutôt, est-ce que nous pouvons tirer de cette histoire des principes, des leçons spirituelles que nous pouvons mettre en pratique en 2018 à Nantes. Dans un sens, il y a un mur de maturité à construire autour de mon âme, et si vous permettez, autour de votre âme aussi. Il y a un mur de louange, un mur d'amour à construire autour de l'Église. Un mur de service, de témoignage à construire autour du royaume de Dieu dans votre ville. Mais que ce soit notre propre foi ou notre Église ou le royaume de Dieu que nous voulons construire, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas de victoire sans bataille. Il n'y a pas d'avancement sans opposition. Et chaque fois que le peuple de Dieu se lève et se dit, on va construire, l'ennemi, Satan, se lève aussi pour dire, je vais m'y opposer. Je discerne dans ces quelques premiers versets deux invitations. Deux invitations. Très souvent, en fait, quand un pasteur baptiste prêche, c'est trois points, n'est-ce pas? Ce matin, deux invitations. Mais d'abord, l'invitation, regardons vers l'extérieur avec compassion. Regardons vers l'extérieur avec compassion. Souvent dans la Bible, l'appel à servir Dieu d'une manière particulière vient quand Dieu prend l'initiative et parle. Pourtant, il y a des occasions où cet appel est discerné à travers la reconnaissance d'une crise, poussée par une conscience accablante d'un besoin. La personne en question, en fait, ne décide pas d'agir. Plutôt, elle croit que la décision a déjà été prise, en quelque sorte. Et je pense que l'appel de Néhémie a été discerné de cette manière-là. Néhémie était l'échanson du roi. Cette position est beaucoup plus importante qu'un maître d'hôtel à notre époque. Oui, l'échanson du roi devait vérifier tous les repas du roi. Mais plus que cela, l'échanson était également toujours près du roi comme conseiller. Il devait être bien éduqué, bien cultivé. Et le fait qu'un juif tenait cette position en Perse montre les qualités de Néhémie. Néhémie est né en Perse, un siècle après les ravages du roi de Babylone. Jérusalem était très loin, il ne pouvait apprendre des nouvelles que à travers les dires des Israélites qui visitaient Perse. Néhémie aurait pu se joindre aux autres Juifs, y rentrer depuis presque 100 ans, mais il ne l'a pas fait. Et pourtant, le fait que Néhémie soit resté en Perse ne veut pas dire qu'il était indifférent aux besoins à Jérusalem. La vérité est tout le contraire. Je dirais plutôt que c'est Dieu qui gardait Néhémie en Perse pour accomplir une tâche précise. Comme Dieu place toujours la bonne personne au bon endroit pour réaliser, pour faire réaliser sa volonté parfaite. Donc, de la même manière que Dieu avait placé Joseph en Égypte, Daniel en Babylone, Esther en Perse, une génération plus tôt, c'est Dieu qui gardait Néhémie là où Dieu le voulait. Nous lisons verset 2. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Donc vous voyez, Néhémie se préoccupait beaucoup de la vie à Jérusalem. C'est lui qui a cherché les visiteurs, qui a voulu leur poser des questions. À ses yeux aussi, nous voyons que les gens comptaient plus que des choses matérielles. Il demande des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Néhémie était bien sûr inquiet de l'état de la ville elle-même. La muraille cassée représentait un manque de sécurité effrayant et une privation économique très importante. Mais des gens, des hommes et des femmes brisés à l'intérieur de cette ville avaient une importance infiniment plus grande. La réponse des visiteurs était bien triste, verset 3. Ceux qui ont survécu à la captivité, qui vivent dans le district de Juda, se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Au travers de l'histoire, on voit des hommes et des femmes chrétiens qui, poussés par une grande compassion pour les autres, ont pu changer la vie de toute une société. Je pense à ceux qui se sont battus pour des réformes dans les prisons, ou contre l'esclavage, ou pour une amélioration dans les usines pendant la révolution industrielle, ou pour le soin des orphelins. Je pense à des noms, je pense à des chrétiens du 18e, du 19e siècle qui, eux, ont regardé vers l'extérieur avec compassion. Et il ne suffisait pas d'identifier le besoin, il fallait satisfaire ce besoin, et tout de suite. Je pense que Néhémie était une personne de ce genre. Il y a un écrivain irlandais qui dit « Le pire des péchés contre nos semblables n'est pas de les haïr, mais d'être indifférent envers eux. Ceci est l'essence de l'inhumanité, selon George Bernard Shaw. » Nous avons dit que le prophète Jérémie avait averti les Israélites de la souffrance qui les attendait s'ils persistaient dans leurs péchés, s'ils persistaient dans leur désobéissance. Une des paroles que Dieu avait données à Jérémie pour le peuple d'Israël était la suivante. « Qui aura pitié de toi, Jérusalem? Qui compatira avec toi? Qui se détournera de son chemin pour s'informer de ton état ?» Je crois qu'en lisant ces premiers versets de Néhémie, nous pouvons voir, en fait, Néhémie est la personne. Néhémie, c'est celui qui répond à cette question-là. Mais quant à nous, et maintenant, 2018, j'ai envie, je me sens interpellé à reposer cette question dans notre contexte. Qui aura pitié de toi, la France? Qui compatira de toi, la Loire-Atlantique? Qui se détournera de son chemin pour s'informer de ton état? Est-ce que nous pouvons dire, mais nous, Seigneur, moi j'aurai pitié de la Loire-Atlantique. Moi, je compatirai avec Nantes et ceux qui habitent à Nantes, les Nantais. Moi, je me détournerai pour m'informer de leur état. Une telle réponse demanderait des sacrifices pour pouvoir venir en aide à ceux qui nous entourent au nom de Jésus. Il faudrait d'abord que nous nous détournions, comme dans cette prophétie de Jérémie, que nous nous donnions du mal, c'est-à-dire que nous fassions un effort, que nous payions un prix peut-être. Les hommes et les femmes que Dieu peut utiliser sont ceux et celles qui sont prêts à faire ce sacrifice, ceux et celles qui sont prêts à renoncer à leur propre intérêt, à leur propre bien-être, pour donner la priorité à la volonté de Dieu, pour donner la priorité au royaume de Dieu, pour donner la priorité à ceux qui les entourent et à leurs besoins. L'apôtre Paul a dit d'une manière très très claire, Jésus-Christ est donné sur la croix pour que ceux qui mettent leur confiance en lui, je cite, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Et vivre pour Jésus-Christ de cette manière égale forcément aimer et servir nos prochains. Jésus l'a dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le grand commandement. Et voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc nous sommes appelés, comme Néhémie, à nous laisser toucher par le besoin autour de nous. Nous sommes appelés à regarder vers l'extérieur avec compassion. Ensuite, la deuxième invitation, nous sommes invités à regarder en haut dans la dépendance. Regardons en haut dans la dépendance. Quelle était la première réaction de Néhémie en entendant la mauvaise nouvelle? C'était d'aller en vitesse, tout de suite entrer dans la présence de Dieu par la prière. Si vous continuez à lire ce livre, vous allez voir que Néhémie était une personne de prière. Il savait regarder en haut dans la dépendance. Mon ancien doyen de faculté, là où je fais mes études à Londres, il disait « Dieu bénit ceux qui ont les mains vides. » Dieu bénit ceux qui ont les mains vides. Nous, on est parfois concentrés sur « Mais qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous amenez? Qu'est-ce que vous avez comme don, etc. » Je comprends ça. Mais à la base, Dieu bénit ceux qui ont les mains vides. C'est-à-dire ceux qui sont utiles dans le service du Seigneur sont ceux qui savent regarder en haut dans la dépendance. Pensez à Martin Luther. Nous venons, n'est-ce pas, de marquer les 500 ans depuis la Réforme. On a fêté, on s'est souvenu de tout ce qui était beau et puissant autour de la Réforme. Mais est-ce que vous savez qu'avant la Réforme, vous savez comment il était Martin Luther? En fait, c'était un homme superstitieux. Faible homme, superstitieux. Il est tombé une fois sur un poignard. Il a eu tellement peur qu'il a crié « Sainte-Anne, je deviendrai moine si vous m'aidez, si vous venir m'aider ici-là. » Il avait peur de mourir. Un homme superstitieux, un homme faible, un pauvre homme. Et pourtant, Dieu l'a accepté comme parce qu'il savait regarder en haut dans la dépendance. Il savait tendre les mains pour que Dieu puisse remplir les mains. Et nous savons à quel point Dieu a rempli les mains de Martin Luther, comment Dieu s'est servi de lui, comment Dieu a béni son travail. Prenons un autre homme, cette fois-ci John Wesley, un nom peut-être que vous connaissez parce qu'il a écrit, n'est-ce pas, beaucoup des hymnes que nous chantons encore. Lui, très différent à Luther, un ecclésiastique anglican, très assuré, très capable, un homme du XVIIIe siècle. Mais il s'est trouvé à bout de nerfs quand il s'est rendu compte qu'il avait besoin de Christ pour être sauvé. John Wesley a regardé en haut dans la dépendance et il en a résulté le réveil évangélique du XVIIIe siècle. Une fois Jésus se tenait devant une grande foule de 5000 hommes, plus leurs épouses, plus les enfants, et Jésus n'avait rien entre les mains. Puis on lui a passé le déjeuner d'un garçon, c'est tout. Jésus savait où regarder. Cette narration est racontée de manière différente par Matthieu, Marc et Luc, mais tous les trois sont bien d'accord sur ce point. Je les cite, « Jésus leva les yeux vers le ciel. » Évidemment, bien sûr que Jésus a levé les yeux vers le ciel. Jésus savait où regarder. Il savait que les ressources dont il avait besoin se trouvait entre les mains de son Père au ciel. C'était pareil quand Jésus était confronté par une famille endeuillée à Béthanie. Il est allé au tombeau de Lazare et, écrit Jean, Jésus leva les yeux en haut. Et encore, dans le jardin de Gethsémané, à ce moment si terrible, si critique de sa vie, Jésus savait où regarder. Jean nous raconte comment Jésus leva les yeux au ciel. Pourquoi est-ce que nous nous rassemblons comme ça, le dimanche ou en semaine? N'est-ce pas pour nous entraider mutuellement à regarder en haut, dans la dépendance, vers notre Père au ciel? Nous ne sommes que des serviteurs, mais nos mains seront remplies parce que nous sommes aussi des fils et des filles du roi des rois. Nous l'avons chanté avec les enfants, n'est-ce pas, tout à l'heure. Voilà ce que je voulais vous laisser ce matin, mon encouragement. Nous sommes appelés comme Néhémie d'abord à regarder vers l'extérieur avec compassion, c'est-à-dire à nous laisser toucher par le besoin autour de nous. Et nous sommes appelés ensuite à regarder en haut dans la dépendance vers notre Père au ciel, qui a toutes les ressources dont nous pourrions avoir besoin. Ainsi disposé, qui sait ce que Dieu pourrait faire au travers de nous? Qui sait? Le jour où Néhémie a rencontré un de ses parents et les autres pour leur poser des questions, pour chercher des nouvelles sur Jérusalem, c'était un jour sans doute ordinaire qui avait commencé comme tous les autres jours. Mais c'était un jour qui allait changer complètement la vie de Néhémie et la vie de beaucoup d'autres personnes en plus. Un jour ordinaire, Moïse est parti s'occuper des brebis de son beau-père, mais Dieu l'a appelé à conduire son peuple. Un jour ordinaire, on a demandé de David de rentrer à la maison. Mais ce jour-là, Samuel l'a roi. Un jour ordinaire, Pierre, André, Jacques et Jean réparaient leurs filets sur la plage. Mais Jésus les a appelés à devenir pêcheurs d'hommes. À notre tour, modestes comme nous sommes, soyons bien disposés, comme l'était Néhémie. Gardons nos oreilles ouvertes pour entendre la voix de Dieu. Et comme je l'ai dit au début, que notre prière puisse être « Seigneur, c'est toi le maître. Que veux-tu que je fasse dans ma vie personnelle, dans ma vie de famille, dans ma vie professionnelle, dans notre vie d'église? Que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je le fasse ?» Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide dans notre vie de tous les jours, ce jour-là avec notre Assemblée Générale, qui nous parle, qui nous guide, qui trace le chemin devant nous. Je vous invite à un moment de prière. Seigneur, nous l'avons déjà exprimé plusieurs fois pendant ce culte, pendant les louanges. Tu es le Maître, tu es souverain. Tu es le Seigneur, c'est toi notre Dieu, notre guide, notre bon berger. Seigneur, nous sommes réconfortés par ce rappel que tu es le berger qui sait où il va, qui sait conduire son peuple, son troupeau. Nous sommes si heureux d'être tes disciples. Nous voulons, Seigneur, te suivre individuellement, en famille, en église. Seigneur, aide-nous à aller au-delà de notre ancienne nature, que nous aussi nous puissions regarder vers l'extérieur, autour de nous ici à Nantes, et regarder nos concitoyens avec compassion, être prêts à nous déplacer, à faire ce qu'il y a à faire, à payer le prix, pour pouvoir venir en aide à ceux qui nous entourent, au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous aussi à pouvoir regarder en haut dans la dépendance, à tendre nos mains vides pour que tu les remplisses. Seigneur, dans ta grâce, parle-nous au travers de notre lecture à la maison, lecture de ta parole. Parle-nous au travers de ces cultes que nous vivons ensemble, les études bibliques en semaine, les groupes de jeunes, les enfants qui se réunissent entre eux. Parle-nous à chaque instant. Dans ta grâce, Seigneur, parle-nous cet après-midi pendant l'Assemblée Générale. Que nous puissions bien discerner ta voix, que nous puissions être bien disposés à te répondre oui. Nous sommes prêts à te suivre là où tu nous indiques le chemin. Dans ta grâce, Seigneur, continue à bénir cette Église, continue à faire d'elle une bénédiction dans cette ville où tu l'as placée. Pour ta gloire, nous te le prions. Amen.